Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace.
Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 67. Bienvenue à toi dans ce monde archiloufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 25 février 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Big Boss, tu es Golden Parachute, tu es PME à Libourne, tu es Rockefeller ou Édouard Leclerc, tu es MEDEF et tu es aussi...
Mon patron croit que je suis amoureuse de lui maintenant.
Et alors, c'est bien le cas, non?
Non, c'est impossible, tu oublies que je travaille pour lui.
Si ça commence à faire le tour de la boîte, aïe.
Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es grand patron et c'est donc toi qui dirige la boutique. Alors, la semaine dernière, le merveilleux groupe pétrolier Total nous annonçait sans gêne un bénéfice record qui dépasse les 12 milliards d'euros pour l'année 2006. On croit rêver, non? Ainsi, à l'heure où les grandes entreprises nous étalent avec fierté leurs profits astronomiques, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, pendant 53 minutes, de se balader dans le monde fantastique du patronat. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle des chefs d'entreprise. Et pour commencer, du petit artisan au grand capitaine d'industrie, il faut essayer de définir, face aux calomnies, les authentiques mérites du bon patron. Ensuite, nous nous intéresserons quelques minutes à l'entourage fourmillant d'un chef d'entreprise. On enchaînera d'ailleurs sur un grand classique des revendications syndicales en compagnie du sympathique délégué force ouvrière Michel Colucci. Et puis, dans la foulée, nous avons tenté pendant toute une journée de suivre Madame Laurence Parisot, la merveilleuse présidente du MEDEF, une expérience pleine de surprises. Et enfin, te raconter comment Monique et Jean-Claude se sont retrouvés le week-end dernier dans un séminaire intitulé « Motivation et cohésion » organisé par la multinationale qui emploie désormais Jean-Claude. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son, sois flexible et délocalise-toi. You can't. Ring My Bell, c'est un tube disco d'Anita Ward en 1979 qui signifie littéralement sonner ma cloche, sans doute une métaphore, mais qui peut se traduire surtout par évoquer un souvenir. Sonne ma cloche, c'est ce que demandent d'ailleurs tous les saints patrons pour qu'on évoque leurs souvenirs, ainsi soit-il. Alors ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé de s'intéresser à ceux qui commandent leurs employés et qui dirigent leur entreprise, à savoir les patrons. Alors, primo, faut faire attention, car beaucoup trop de médisances circulent encore sur les chefs d'entreprise. Ainsi, la panique au Mangin Palace se fait un devoir solennel ce matin de réhabiliter cette profession sans laquelle nous ne pourrions pas travailler, affirme-t-on. Car il ne faut pas l'oublier, c'est ton patron qui te permet de manger tous les jours.
Monsieur le directeur,
oui.
Vous signez les chèques.
Oh là là, oh non, ça je ne pourrais pas, oh non, ça je ne pourrais pas.
C'est la fin du mois.
Encore? Oui. Enfin, les gars, un mois, c'était déjà la fin du mois, et puis dans un mois, ce sera encore la fin du mois, et puis après un jour, ça s'arrête. Oh non, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas.
Oui, bon ben, c'est vrai ça. Restreindre le rôle du chef d'entreprise à signer les chèques à la fin du mois, c'est très réducteur. Le patron a surtout une vision globale des choses. C'est lui qui a compris vers quel secteur de l'économie il doit diriger l'activité de son entreprise. Le patron, et ce n'est pas facile, il doit gérer son stock. Et c'est pour ça qu'il exige sans cesse de toi que tu te dépêches pour répondre en flux tendu aux fluctuations de la demande. Et ils le disent bien, les patrons.
Et c'est le temps qui...
Eh oui, être patron, c'est prévoir. Alors bien sûr, il est facile de se moquer du patron qui reste vautré dans son gros fauteuil en cuir alors que toi, tu te brises le dos dans l'atelier ou devant ton ordinateur. Mais être patron, cela signifie aussi prendre des décisions et avoir une réponse adaptée à chaque nouvelle question.
Monsieur Tabar, je peux avoir ma journée demain?
Non.
Alors je peux partir une heure plus tôt ce soir?
Non.
Vous voulez que je vous raconte une histoire?
Non.
Vous connaissez celle de l'imbécile qui dit non?
Non.
Eh bien, c'est vous.
Eh oui, en plus de prendre des décisions complexes et de payer ces feignants d'employés, il faut supporter leur impertinence quand on est patron. Cependant, de temps en temps, le patron a la chance de retrouver ses amis lors du conseil d'administration. Et c'est là que le patron, il doit exposer et défendre même les valeurs et les idéaux de son entreprise.
Non, non et non, je m'en cogne de la guerre en Irak. Je déprogrammerai pas Star Academy pour passer la guerre.
La guerre en Irak, ça a quand même bien marché en 91. On a fait des bons scores sur la ménagère.
Oui, mais aujourd'hui, la ménagère, elle veut du Star Academy. On lui donne du Star Academy. J'ai pas raison?
Patrick a raison, c'est chiant la guerre. En plus, on peut pas montrer un Maccabé ou un gosse déchiqueté, sinon on a le CSA au derche. Puis on va pas faire de la géopolitique, ça gaffe tout le monde.
La géopolitique, pourquoi pas un vrai journal télévisé aussi?
Pourquoi pas? C'est vrai ça, après tout, soyons fous. Le patron, ça lui arrive parfois d'avoir un avis un peu tranché, mais il faut le comprendre. Le patron, tout ce qu'il décide, c'est pour le bien de son entreprise et donc de ses salariés. En gros, pour ton bien, l'ami. Et il sait parfois reconnaître le mérite de ses meilleurs employés, justement. Car le patron, aujourd'hui, c'est un vrai manager qui sait motiver ses troupes.
Vous avez qu'à prendre exemple sur Lucien. Mais quand il bosse, il risque pas d'être flashé par le radar. Pas vrai?
Vous devriez pas, monsieur Collignon. C'est pas sa faute.
Ah, ça, vous avez raison, même cauchois. C'est pas de sa faute. S'il dort pas la nuit, c'est de la faute à Lady Di. Vous savez ce que j'ai découvert ce matin dans le camion? Le catalogue des trois Suisses ouvert au chapitre des nuisettes. Il avait découpé la photo des pin-up pour y mettre celle de la princesse à la place. Non mais t'as vu l'heure? Alors celui-là, s'il a pas été fini au pipi?
Et voilà, on va encore dire que les patrons sont caricaturés. Pourtant, l'image du patron salaud et esclavagiste est largement dépassée. Aujourd'hui, c'est certain, les grands patrons ont du cœur. Et ça, c'est un scoop.
Un scoop sur France Inter, une véritable exclusivité, le plus secret, le plus muet des patrons français, François Michelin parle.
J'ai toujours eu l'impression que
Encore récemment, que beaucoup de gens croyaient que les patrons avaient une joie sadique à foutre des gens à la porte. Or, licencier du monde, c'est un drame épouvantable. Je suis même étonné d'être encore en vie, après tout ce qu'on a été obligé de faire. D'abord, on s'attache aux gens, quelle que soit leur coloration politique ou religieuse. Deuxièmement, pour la maison, des gens qui partent, c'est toujours une substance qui s'en va. C'est de l'aigreur qui reste, c'est des inquiétudes pour les gens qui restent, c'est dramatique.
Vous voulez dire que vous, François Michelin, comme les autres chefs d'entreprise, vous ne licenciez qu'en tout dernier recours?
Exactement, et généralement les banquiers et les actionnaires et les financiers nous disent que nous sommes trop charitables et un peu trop philanthropiques.
Eh ben voilà, t'as bien entendu, c'est M. Michelin lui-même qui oppose les gentils patrons aux méchants actionnaires, hein? Ce n'est pas nous là, c'est M. Michelin qui le dit. Nous, à la panique au Mangin Palace, on les aime les patrons. Jamais nous n'irions dire qu'ils oublieraient de redistribuer aux travailleurs une partie du profit. Non, jamais. Surtout que nous sommes conscients des risques immenses que prennent les patrons en investissant dans leur entreprise. D'ailleurs, certains peuvent même être licenciés. Et dans ce cas, pour le patron, c'est le drame.
Ah, quelle affaire! Me voilà milliardaire! Enfin, je vais pouvoir m'offrir tous les plaisirs, c'est mon désir. Plus de misère, j'ai fini de m'en faire. C'est pour moi la joie des beaux jours, et c'est un peu mon tour.
Eh oui, le licenciement d'un patron, parfois, c'est un peu comme la Française des Jeux. Ainsi, Jean-Marie Messier, par exemple, a palpé près de 20 millions d'euros quand il a été lourdé de Vivendi Universal. Pas mal. Daniel Bernard, lui, a reçu 30 millions d'euros après avoir été viré de Carouf pour manque de performance, dis donc. Interdiction de rire, hein, surtout chez les smicards pour qui ces indemnités représentent des siècles de salaire. En revanche, les petits salaires peuvent parfois espérer partager les mêmes plaisirs que leur patron.
La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amant. Elle est riche et elle est belle, mais moi je ne veux pas de problème. Son mari c'est mon directeur, moi je suis son chauffeur. Si je deviens l'amant de la femme du patron, c'est dangereux. Mais les femmes sont diaboliques, malgré leur beauté angélique. Quand une femme est amoureuse, elle devient très dangereuse. La femme du patron m'a dit si je refuse, elle ira dire à son mari que c'est moi qui lui fais la cour. Même si je suis innocent, j'aurai de gros ennuis. Devant cette situation, je ne trouve pas de solution. Car dans cette affaire, moi je ne sais plus que faire. Puis dans tous les cas, je n'ai pas tellement le choix. Si je dis oui, c'est imprudent à cause du patron. Mais si je dis non à la femme, elle va se venger.
La femme du patron, c'est celle que célébrait en 1984 le sympathique chanteur ivoirien Daouda. Enfin, ivoirien, c'est vite dit ça. Devant la femme du patron, là, c'est surtout un gros malien, oui. Alors maintenant, justement, après la femme du patron, et pour prolonger notre aventure dans l'univers fabuleux du chef d'entreprise, eh bien, il est temps désormais de s'intéresser quelques minutes à l'entourage du Big Boss. Car sais-tu, toi, mon ami, qui entoure réellement le patron ? Bien souvent, on associe l'image du patron à celle d'un capitaine solitaire qui doit affronter vents et marées pour éviter que son navire ne sombre dans les abîmes de la faillite ou du redressement judiciaire. Seulement voilà, seul, en réalité, le patron n'est rien, bien sûr, car il ne peut être efficace uniquement si son entourage est à la hauteur de ses ambitions. Être un chef, c'est avant tout savoir choisir des collaborateurs qui lui permettront d'éviter que la roche tarpéienne ne soit trop proche du capital de l'entreprise. D'ailleurs, un excellent patron se reconnaît immédiatement aux qualités humaines et professionnelles de son adjoint le plus proche.
Oh, l'asticot, oh !
Ouais, je suis là, chef !
Oui, mais on a dit 8h15, hein, j'essaierai de donner l'exemple.
Mais je suis là, j'ai ton comptabilité, là, avec la petite nouvelle, là, salope.
Et cool. Bon, alors, tu me les as mis comment, la semaine
dernière ? Bon, alors, je vous les ai mis par ordre d'aptitude, hein, chef. Alors là, je vous ai mis les Portos, là, je vous ai mis les Croyas, les Mulons. Puis pour les Crépus, ouais. Ben, voyez ça en direct avec eux,
c'est
hein, chef.
Ça, je m'en occupe. Et autre chose, là, au lieu de ricaner, là, si je chope celui qui s'est amusé à chier dans le casque à l'architecte samedi soir... Non, attention les jeunes, il y a des blagues qui se font pas sur des chantiers à 300 briques. Hein. Après, c'est Bibi qui trinque. Hein.
C'est moi, chef.
Voilà. Oh, l'astico, oh. Tu sais que celle-là va te dire bonjour sur la gueule tout à l'heure, tu sais pas d'où ça va t'arriver, que ça va être... Bon, allez, j'ai rendez-vous avec la mairie et une histoire de pot de vin, je te laisse.
Eh oui, que ferait un chef de chantier sans la présence d'un excellent contremaître ? Dans une entreprise, il est absolument nécessaire pour le patron de pouvoir compter sur une courroie de transmission irréprochable entre lui et son personnel. D'ailleurs, quand le nombre d'employés devient considérable, le chef d'entreprise doit être également très exigeant quant au choix de son directeur des ressources humaines.
Dis donc, il me faut un type avec des couilles en béton, un coriace. Dans ton genre, quoi. Il restera dans le secteur 24 heures sur 24. Il sera très bien ici. Dis-toi que je l'apprécie, ce geste-là. Tu verras. Si tu sais rester fidèle dans ce genre d'affaires, tu vas vite grimper. Tu vas grimper plein pot. Salut ! Salut !
C'est ainsi. La garde rapprochée du patron ne doit jamais souffrir d'une quelconque défaillance à son égard. C'est un contrat de travail. On vit ensemble, on meurt ensemble. Cela dit, la meilleure garantie d'une fidélité à toute épreuve pour un chef d'entreprise, c'est encore d'embaucher son propre fils, bien sûr.
Que je suis rentré à l'usine. Alors évidemment, il y a eu des jaloux parce qu'ils estimaient que si j'avais pas été le fils de mon père, j'aurais jamais décroché cette situation à 1,5 million par mois. Les gens sont tellement amers quand on réussit. La responsabilité que papa m'avait confiée, c'était d'essayer les fauteuils quand on refaisait un bureau. Bien payé, mais 2 mois de vacances seulement. Enfin, il y avait des aigris parmi les cadres, mais les ouvriers étaient toujours charmants avec moi. Quand je quittais l'usine le soir, ils me disaient toujours « Vous êtes pas trop fatigué ? Ça va ? Vous me tiendrez le coup ?» Charmant !
Cela dit, attention, nous évoquons ici depuis quelques minutes les instances dirigeantes d'une entreprise autour de son patron. Mais celui-ci doit également veiller à ce que ses petites mains soient tout aussi performantes.
Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus vénard. Vous avez des tigri-tigri-tigri-dactylo-ora. Tigri-tigri-tigri, elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant ta tête noire. Bipapalula, bipapalula, elles travaillent le jour et la nuit, et même parfois tous les samedis, les dactylo-ora. Tigri-tigri-tigri-dactylo-ora.
Et oui, dans un staff efficace, même la secrétaire de direction doit être dévouée corps et âme au patron. Mais alors, me diras-tu, pourquoi le patron doit-il être aussi exigeant avec son entourage le plus proche ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, bien souvent, son entreprise, justement, elle ne lui appartient plus tout à fait. Elle fait partie d'un groupe industriel, comme on dit. Et du coup, le patron en question, lui, il doit parfois rendre des comptes à un autre personnage de son entourage, le Big Boss. Autrement dit, à celui qui dirige le consortium.
Et votre boutique appartient sans doute à la Société des ustensiles ménagers français, non ?
Oui, oui, la SUMF.
Mais c'est mon père qui l'a fondée. Je n'ai pas retenu votre nom.
Chaudard, monsieur le directeur. Louis Chaudard, Vesoul.
Chaudard ?
Chaudard. Votre nom me dit quelque chose aussi. Chaudard Vesoul. Ah oui. J'ai entendu parler de vous par mon père. Hein? Il me semble, oui. Pas brillante, votre affaire.
Non, ouais, cette année, ça n'a pas été ça.
L'année dernière non plus.
Non, l'année dernière non plus.
C'est sûr, le patron du patron n'est jamais tendre, lui non plus. Et parfois, malheureusement, même quand la garde rapprochée du chef d'entreprise est ultra performante, eh bien, les contraintes de rentabilité pour faire face à la crise économique sont telles aujourd'hui que le patron doit alors faire appel à un autre partenaire très particulier pour reclasser ses employés, à savoir l'État.
Plus 100 000 chômeurs en 2002, c'est un bon début pour la droite qui espère faire mieux en 2003 avec les plans sociaux qui se multiplient. Madame Meunier, vous faites partie des licenciés de DEU, vous allez être reclassée quelque part?
Non, bah, je sais pas. De toute façon, si je peux plus payer le loyer, je vais me faire expulser. Où je vais dormir, moi. Je vais être obligée de trouver un squat ou je sais
ah,
pas.
Ah non, le squat, c'est interdit. Sinon, c'est la tôle.
Bah oui, mais comment je...
Vous n'avez pas de ressources?
Non, je vais être obligée de faire la manche.
Ah non, la mendicité est interdite, hein. Sinon, c'est la tôle.
Je vais quand même pas me prostituer.
Ah sûrement pas, sinon c'est la tôle, hein. Non, mais ça va aller. Vous avez bien de la famille qui pourrait vous aider?
Non, pas en France. Mes parents vivent au Portugal et...
Parfait, je vous accompagne à l'aéroport.
Mais...
Ah, c'est bien organisé, la France, hein.
C'est sûr, c'est très bien organisé. Cela dit, avant de licencier, le patron doit souvent négocier avec une autre figure emblématique de son entourage professionnel, à savoir le délégué syndical, bien sûr. Alors là, pour évoquer ces fameuses relations entre un chef d'entreprise et son personnel syndiqué, le mieux, je crois, c'est de laisser la parole à l'inénarrable Coluche. On découvre cela juste après le jingle.
Ça me fait rire, ça me fait rire.
Moi, je suis syndiqué, hein. Je suis syndiqué, je suis TFO. Force ouvrière. Gardez vos forces, les ouvriers. Je suis très bien vu par le patron. Je suis reçu à la campagne, à la chasse. Entrez, mon ami, asseyez-vous, c'est du cuir. Touchez à mon chien, connaissez ma femme, bon. Ou le contraire, ça dépend de la taille du chien. Bon. On était là comme ça, et qu'est-ce qu'il me glisse dans la conversation? Il me dit, alors quand est-ce qu'on arrête la grève? Mais j'ai dit, mais c'est quand vous voulez, hein. Eh, c'est vous le patron, hein. Ça dépend du stock. Parce que moi, je travaille dans une usine où que la grève dépend directement du stock. Je vais vous expliquer. Vous avez l'État, le patron, le syndicat, l'ouvrier, la police, qui remet tout dans l'ordre. Quand il y a trop d'ouvriers dans la rue qui gueulent pour trouver du boulot, l'État dit au patron, engagez-moi donc des chômeurs qui font des ordres. Alors l'autre, il engage les chômeurs, non? Puis il remplit le stock, puisque déjà, il n'en avait pas besoin, les chômeurs qu'il y avait là-dedans, puisqu'il n'arrivait pas à vendre déjà avant. Alors le stock est plein. Quand le stock est plein, qu'est-ce qu'il dit le patron? Il se tourne vers son partenaire social, qui est le syndicat. Suivez, prenez des notes, je ne vais pas répéter. Et puis il dit, voilà mon gars, on va être obligé de débaucher une certaine catégorie de personnel. Le syndicat appelle à la grève. À la grève! La grève dure des fois 3 semaines. Pendant 3 semaines, qu'est-ce qu'il fait le patron? Il vend ce qu'il a dans son stock, puisqu'on a arrêté de fabriquer. Lui, il continue à vendre. Au bout d'un moment, le stock est vide. Le patron, il dit à ce moment-là au syndicat, vous avez gagné, je rembauche tout le monde. Et les ouvriers retournent bosser en chantant, on a gagné! On a gagné, à part les 3 semaines qu'on a perdues. Bon, évidemment, quand ils sont embauchés, ils sont augmentés. Et d'ailleurs, c'est là qu'est le problème. Parce que le patron, il me l'a dit, il m'a dit, vous comprenez, le problème, il est simple. Les ouvriers, ils demandent ça. Bon, on leur donne ça. Bon, mais ils le prennent. Alors moi, je suis tourné à l'usine, il y avait des remous. Ouais, on a fait la grève 3 semaines, on a gagné et puis finalement, à la fin de l'année, on aurait perdu le pognon plutôt qu'on aurait gagné. J'ai dit, camarade, d'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne ce que le mercurochrome est à la jambe de bois. À cela, je dirais, rappelez-vous l'essentiel. Camarade, le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le syndicalisme, c'est le contraire.
I'd Like To, c'est ce que chante sur son premier album Corinne Bailey-Ray, une Anglaise originaire de Leeds qui, toute jeune, avait déjà la bosse de la musique. Alors, c'est pas trop tôt que Corinne se délocalise en France. Et maintenant, pour poursuivre notre ascension sociale dans l'univers des chefs d'entreprise, la panique au Manja Palace a essayé d'imaginer, entre fiction et trucage, une étrange histoire qui a eu lieu au MEDEF, le mouvement des entreprises de France, et qui concerne plus particulièrement sa présidente, la charmante Laurence Parisot. En effet, il y a un mois, jour pour jour, le 25 janvier donc, se tenait à Bercy l'Assemblée Générale du MEDEF. Avant de faire son grand discours, Laurence Parisot avait invité quelques grands patrons à déjeuner avec elle.
Monsieur Grégoire, je vous en prie, reprenez encore quelques-unes de ces écrevisses.
Avec grand plaisir, chère madame.
C'était fatal. La trop grande prospérité de ces dernières années devait nous mener là. Songez aux énormes capitaux qui sont immobilisés dans les chemins de fer, dans les ports, dans les canaux.
L'Amérique, en cessant ses commandes de fer et de fonte, a porté un rude coup à nos hauts fourneaux.
Et depuis que les usines ferment une à une, nous avons un mal du diable à nous débarrasser de notre stock. Et si on veut vendre face à la concurrence, nous sommes bien obligés de baisser notre prix de revient. Et c'est ça que les ouvriers ne veulent pas comprendre. Alors, nous n'avons pas d'autre choix que de baisser les salaires, forcément. Ce sont les ouvriers qui trinquent.
Pour ce qui est de trinquer, ils n'ont pas besoin de ça. Hein.
L'ambiance est donc à la bonne humeur lors de ce déjeuner de travail regroupant la direction du MEDEF. Seul un des convives reste un peu à l'écart, comme perdu dans ses pensées. Il s'agit du baron Ernest-Antoine Sellière, l'ancien patron des patrons. Laurence Parisot, inquiète, lui demande alors ce qui ne va pas, ce qui le tracasse, ce à quoi Ernest-Antoine lui répond que...
Depuis ma plus tendre enfance, enfin même au collège, à l'armée, j'ai toujours été très jalousé. Enfin, ça m'a pas empêché de dormir. Non, je sens que je suis détesté. Et je ne sais pas par qui. Je ne sais pas par qui. Je sens que c'est dans l'air quand je sors en public, au restaurant, au cinéma. Je ne sais pas si ma concierge me déteste, mais enfin, quand je lui parle, elle hausse les épaules. Et ma femme rit tout le temps, sauf quand je raconte quelque chose de drôle.
Tous les patrons sont d'accord. Ouais, c'est trop dur d'être patron, personne ne nous aime, alors que sans nous, je veux dire, les travailleurs ne pourraient pas travailler, quoi. D'ailleurs, le baron Sellière se révolte contre le manque de responsabilité des ouvriers.
Voilà-t-il pas que les gueux veulent, comment disent-ils déjà, une retraite? Ah, pourquoi pas des vacances, puisque nous y sommes? Mais que veulent-ils? Prenons l'exemple d'un seigneur qui fait travailler, disons, 5 ou 6 ancers sur ses terres. Il ne doit pas, notre seigneur, être soumis à l'impôt, la gabelle, la dîme. Car notre seigneur a une responsabilité devant Dieu, Jésus-Marie est absolument béni, et devant le roi. Celle de protéger ses vassaux. Pour les protéger, il doit armer des chevaliers, Bayard, Roland ou autre, peu importe, bref. S'il paye l'impôt, il a moins de chevaliers à son service et la vie des gueux est mise en danger. Attaque de Goths, Visigoths, Ostrogoths ou d'autres. Dans ce système, le gueux gagne la vie. Il travaille heureux pour son seigneur et peut mourir heureux de vieillesse à 47 ans.
Et une fois encore, les patrons réunis autour de Laurence Parisot acquiescent. Chacun y va de son couplet sur le manque de flexibilité de l'emploi et sur la lourdeur des impôts. Mais Laurence met un terme à la conversation. Il est tard. Chacun rejoint donc sa voiture et surtout son chauffeur, car il est temps d'aller à Bercy pour l'Assemblée générale du MEDEF. Laurence Parisot se retrouve donc sur le siège arrière de sa grosse berline en direction de l'Assemblée Générale du MEDEF où elle doit prononcer le discours de clôture. Elle relit ses fiches, mais son regard est sans cesse attiré par le rétroviseur intérieur dans lequel se reflètent les yeux de son chauffeur, un jeune smicard qu'elle trouve parfaitement à son goût. Laurence, elle est habituée à commander les hommes, alors elle attaque direct.
Viens, suis-moi, je connais une route des mailles qui mène au pays de perles et de corail. Je suis un bébé requin au ventre blanc, aux dents nacrées. Dans les eaux chaudes, je t'entraînerai et sans que tu le saches, avec amour, avec douceur.
Le chauffeur de Laurence Parisot se dit que la proposition de sa patronne, c'est peut-être l'occasion rêvée de progresser socialement. La promotion banquette arrière, quoi. Le chauffeur garde donc sa berline dans un recoin obscur du parking souterrain de Bercy. Laurence Parisot le prévient alors que...
Il y en a qui collectionnent les scarabées. Il y en a qui affectionnent les macabées. Tous ces gens cherchent sans arrêt l'idéal qui les satisfait. Mais moi, le seul truc qui me plaît, voilà ce que c'est. Je suis un monstre de perversité. Je suis le contraire d'une sœur de charité. J'arrache les hommes pour en faire des beignes. Je suis un monstre de perversité. Et vous n'avez encore rien vu.
Mais le chauffeur en a pourtant assez vu. Alors, toujours sur la banquette arrière, couleur jaune paille de la berline, il lui dit à Laurence.
Sous tes cheveux, beaucoup trop blonds, décolorés, ça va de soi. T'avais une cervelle de pigeon, mais j'aimais ça, au fond de tes grands yeux si bleus. Trop maquillé, ça va de soi. T'avais quelque chose de prétentieux que j'aimais pas, que j'aimais pas. J'avais la tignasse en bataille et les yeux délavés. Je t'ai culbuté dans la paille. T'as pris ton pied, adieu fillette. Nous n'étions pas du même camp. Adieu minette. Bonjour à tes parents.
Laurence est complètement chamboulée de ce que vient de lui dire son chauffeur. Elle quitte la voiture et se rend dans la salle du Palais Omnisports de Paris-Bercy pour son discours à l'Assemblée Générale du MEDEF. Là, les premiers orateurs chauffent l'assistance des 6000 patrons réunis pour l'occasion en parlant de l'ennemi syndicaliste. Cependant, Laurence Parisot a du mal à se motiver. Ce qu'elle vient de vivre avec un prolétaire la bouleverse beaucoup. Elle monte pourtant à la tribune, mais elle a laissé ses notes dans la voiture. Son aventure avec un travailleur lui a ouvert les yeux. Alors, quand elle prend le micro, c'est une énorme surprise dans la salle.
L'État ne veut pas consacrer d'argent à tout cela. Il préfère faire des cadeaux fiscaux au PDG de Total ou à l'ex-PDG de Carrefour et à quelques autres du même acabit. Alors camarades, j'espère, je souhaite que nous nous retrouvions tous ensemble, côte à côte, dans la mobilisation pour ma part. Quelles que soient les difficultés qui sont bien réelles aujourd'hui, j'ai confiance dans les capacités des travailleurs à changer leur rapport de force en leur faveur.
Tous les patrons sont interloqués. Elle a pété les plombs, Laurence, là. Ils ne reconnaissent pas celle qu'ils ont élue à leur tête, celle qui pourfendait ce midi encore ce foutu code du travail. Mais les patrons sont très vite rassurés. En quelques minutes, Laurence Parisot se ressaisit et retrouve son discours libéral. Ouf, c'est certain, elle ne va pas leur demander de sortir un instant et de regarder passer les gens manifester. Faut pas déconner.
On pourrait sortir un instant et regarder passer les gens. Mais on se laisse enfermer. On oublie toujours de rêver. Pourtant, rien n'est plus important.
La clé des champs, c'est celle que prend le chanteur Mick et tout seul, le leader de Mickey 3D, en gros le patron du groupe, se la joue perso quoi. Alors maintenant, pour continuer notre observation clinique de celles et ceux qui sont à la tête d'une entreprise, il est grand temps désormais au Mangin Palace de retrouver nos deux saints patrons, les caciques Jean-Claude et Monique. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'à l'automne dernier, la boîte pour laquelle travaille Jean-Claude a été rachetée par un gigantesque consortium américain. Évidemment, avec cette fusion industrielle, il a fallu licencier, mais notre Jean-Claude, force vive de l'entreprise, a eu la chance de garder sa place, et tant mieux pour lui. Seulement voilà, dans l'optique de ressouder les équipes et surtout de recadrer les objectifs, le conseil d'administration américain impose systématiquement à toutes ses nouvelles filiales un séminaire intitulé « Motivation et cohésion ». C'est ainsi que le week-end dernier, Jean-Claude Furax, bien sûr, a donc pris le train en compagnie d'une cinquantaine d'employés, mais également accompagné de Monique, puisqu'en effet, les conjoints et conjointes sont conviés à ce séminaire. Et vendredi soir, sur le quai de la gare, Monique reconnaît immédiatement le nouveau directeur de Jean-Claude.
Bonjour monsieur le directeur, soyez comme moi de bonne humeur, venez, partons nous promener.
Ah, que pensez-vous de ma petite idée ?
Jean-Claude demande alors à Monique d'arrêter son cirque sur le champ. C'est son nouveau patron, merde. Il faut se tenir un peu, bon sang. Et puis, c'est durant le voyage que Jean-Claude, toujours aussi peu enthousiaste, découvre le programme de ce petit séminaire à la con, là. Samedi matin, réunion des cadres. L'après-midi, activité physique, dans l'optique de renforcer l'esprit d'équipe. Et samedi soir, énorme fiesta avec tout le monde, patron compris. C'est ainsi qu'après une nuit passée dans un hôtel en pleine campagne, Jean-Claude se retrouve donc samedi matin en réunion en compagnie de quelques cadres et de Serge, le chef de service.
La politique et la devise de notre mission est excessivement simple. C'est adhérence et proximité. Approche tactique et mesurée de la cible se divisant en quatre phases. Phase 1, exploration. Phase 2, cimentation et souscription. Phase 3, rapport quotidien de la mission. Et phase 4, symbiose absolue. Avec votre leadership. Bon. Je vous ai préparé quelques mises en situation à l'américaine. Et après, vous aurez quartier.
Exercice à l'américaine. Jean-Claude trouve ce numéro de Serge complètement ridicule. Quand, tout à coup, Jean-Claude se fait interpeller.
J'aimerais que chacun de vous me dise ce qu'il attend de cette séance. À toi, Jean-Claude.
Enfin, Serge, c'est pas innocent. Tu sais très bien que la direction m'a inscrit d'office à ce stage de merde. Hein, mes émotions, moi, je les réserve pour ces dames. Ce stage-là, c'est de la branlette intellectuelle, voilà.
D'accord, donc je note soumission à la direction, hein, et recherche de sélection. Soumission, séduction.
Et aussi branlette intellectuelle.
Oui, bah là, il n'y a pas la place, hein.
De plus en plus exaspéré par ce séminaire, Jean-Claude a du mal à cacher ses émotions. D'autant qu'il pense à Monique, qui, elle, est sans doute toujours en train de pioncer tranquille dans la chambre d'hôtel. C'est alors que Sylvain, un collègue de boulot, fait remarquer à Serge, le chef de service, donc, que Jean-Claude, lui, ne cesse de bougonner dans son coin et que c'est insupportable. Du coup, Serge, en bon patron, décide d'intervenir à nouveau.
Jean-Claude, tu devrais essayer d'entourer tes reproches par deux compliments. Tu vois, histoire de réchauffer l'ambiance. Par exemple, oh, tu as un joli costume. Hein, c'est énervant quand tu reprends les autres. T'as l'air en forme. Vas-y, essaye, Jean-Claude.
Non, Sylvain, ce ne sont pas les autres qui te stressent, mais c'est toi qui es responsable de ta propre connerie. J'aime beaucoup ta coupe de cheveux, tu sens bon, petite bite.
Bien, bravo, Jean-Claude.
Alors, c'est à moi de réchauffer l'ambiance. Alors, Jean-Claude, t'as un beau
costume. Attends, on n'a plus le temps, on va passer tout de suite à la deuxième étape maintenant, l'esprit d'équipe.
Esprit d'équipe, tu parles, se dit Jean-Claude, je m'en tape le coquillard, oui, des conneries, tout ça. Et rebelote, Serge intervient.
Tu crois où, vieux ? Attention, camarade, hein. Ici, les règles du jeu sont claires. Moi, je suis ici pour faire marcher une équipe. Mais si tu ne joues pas avec moi, tu joues contre moi. Et à ce petit jeu-là, laisse-moi te dire que tu ne pars pas gagnant.
Et j'aime pas les tirs au flanc. Alors c'est quoi ton problème ?
J'y arrive pas.
Non. Ton problème, il est dans ton regard. Tu sais ce que je vois, moi, quand je regarde tes yeux ? Je vois de la pitié. Eh ben, tu vois ça, la pitié. Le client, il n'en a rien à foutre. C'est la guerre. C'est manger ou être mangé. Eat or to be eat. That's the question. Right ?
Déstabilisé par cette mise au point féroce du patron, Jean-Claude se dit que décidément l'esprit de la boîte a bien changé depuis cette fusion avec le consortium américain. D'ailleurs, tout au long de la journée, Jean-Claude va de surprise en surprise et en fin d'après-midi, il est au bout du rouleau quand une nouvelle fois, il entend Serge, son nouveau patron, s'adresser au cadre de l'entreprise.
Bon, quelques mots avant de vous laisser à la disposition de l'instructeur. Vous venez de réaliser les épreuves du groupe 1, hein, de l'évaluation commando. Les épreuves, vous les connaissiez, hein. Aptitude physique minimale commando, la batterie de test physique, le 1500, la marche des 8, la nage de combat et l'apnée. Donc là, on vous a évalué essentiellement individuellement. À partir de maintenant, les choses un peu plus sérieuses ont commencé.
Eh oui, un authentique stage commando, voilà en quoi consiste ce séminaire à l'américaine, avec comme épreuve ultime donc un saut à l'élastique du haut d'un viaduc désaffecté. Là, Jean-Claude refuse catégoriquement de s'y prêter, débile ce truc, et il décide plutôt de retrouver Monique, restée à l'hôtel toute la journée, pour profiter des soins d'Alasso. Surprise de le découvrir totalement abattu, Monique tente de rassurer Jean-Claude, en lui rappelant qu'il y a ce soir une très belle fête, où ils vont bien s'amuser tous les deux. « Tu parles, » lui répond Jean-Claude. avec ce qu'il a vécu aujourd'hui pendant ce séminaire à la con là, il sait très bien ce qu'est cette fête ce soir. Malgré toutes ses réticences, Monique parvient tout de même à convaincre Jean-Claude d'aller boire un verre avec ses collègues et la direction de l'entreprise. Très vite, Jean-Claude se met donc à picoler sévèrement du champagne. Et au bar, il se retrouve par hasard face au grand patron de la branche européenne de sa boîte en compagnie de son épouse. C'est alors que le big boss du Jean-Claude se met à lui commenter tout ce petit monde patronal qui danse devant eux.
Rodolphe de Beautron, le fils Moulinex. Grosse fortune, un vrai SDF.
Il est ruiné ?
Mais non, SDF, sans difficulté financière. C'est pas qu'on méprise des gens qui n'ont pas d'argent, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi ils n'en ont pas. Ils n'ont qu'à en acheter.
Excédé puis écœuré par cette débauche de mépris pour ceux qui n'ont pas d'argent, Jean-Claude, ivre d'alcool et de colère, monte alors sur la scène et s'empare du micro devant une assistance de patrons médusés.
Les patrons, c'est comme les cochons, ça ne mérite, oui, qu'une volée de plomb. Et la seule chose que ça sait faire, c'est de voler ses propres frères. Alors arrêtons de nous laisser faire. Ce sont les bâtards en costard qui assassinent à coups de la. Oui, on les flingue citoyens. Votons le cul à ces crétins. Votons le cul à ces crétins.
L'atmosphère se glace immédiatement, bien sûr, et malgré deux ou trois soutiens dans la salle et un regard furibond de Monique, Jean-Claude comprend très vite que dès lundi matin, il pourra faire son sac et passer à la compta. À coup sûr, il est viré. Ce petit séminaire se termine donc droit dans le mur. De retour à la maison, dimanche matin, Jean-Claude croise son fils Rémi, à qui il annonce qu'il va sans doute être viré par son patron.
Mais c'est pas grave, papa, tu n'es pas dans cet état. Lève les yeux et regarde-moi, j'ai peut-être jamais été si proche de toi.
C'est alors que, tout à coup... Jean-Claude sursaute. Il transpire et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Où est-il ? Il se réveille à l'hôtel. Nous ne sommes que samedi matin et le séminaire n'a pas encore commencé. C'était un cauchemar. Quelle horreur. Fin de l'histoire. Pendant qu'il se rase dans la salle de bain, Jean-Claude se rend compte combien le stress imposé par sa nouvelle direction patronale vient même jusqu'à perturber son sommeil. En un mot, merci patron, quoi.
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur.
Ah, 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 ah oui.
D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. La ira, la ira, yeah.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron,
merci patron,
merci patron,
merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes.
Ah, 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 ah oui.
Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges.
Laïdira, laïdira, yeah. Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler. Un jour Dieu vous le rendra.
Oui, c'est ça.
Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, Nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Ah, 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 oui.
Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
À vous le plaisir de travailler pour nous.
Vous serez heureux comme un fou.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Ce que vous avez fait pour nous,
nous le referons pour vous.
Merci patron, une boutade bien entendu que chantaient les Charlots en 1971. Cela dit, c'est aussi ce que disent chaque jour les couturières qui s'en remettent à leur joli patron. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre exploration dans le monde fantastique des chefs d'entreprise. Du fils du patron au self-made man, de Laurence Parisot embarrassée à Jean-Claude en séminaire et des bénéfices records au petit patron qui trime, nous t'avons dressé un panorama totalement subjectif et totalement incomplet, bien sûr, de ce que peut être l'univers merveilleux des patrons. Alors, c'est quoi exactement le patronat? Eh bien, c'est avant tout un monde extrêmement hétérogène, comme tu le sais, où les plus grandes fortunes de France côtoient les petits artisans. Ce matin, bien sûr, la panique a rhabillé les grands patrons pour l'hiver, enfin, sans grande perturbation dans leur quotidien d'ailleurs. Cela dit, la panique n'est pas sans savoir non plus que la réalité des patrons en France aujourd'hui, ce sont également des centaines de milliers de petites entreprises, dont certaines triment dur pour maintenir leur activité et tenter de créer de nouveaux emplois pour faire vivre l'économie française. Mais bon, bien sûr, pour finir, c'est difficile de construire une émission sur le patronat sans tomber dans les clichés. Soi-disant, ils seraient tous avides de profit, sans se soucier de leurs employés. Soi-disant, ils seraient tous millionnaires. Et soi-disant, ils seraient tous de droite. Et pourtant, là encore...
Il y a des patrons de gauche. Je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Et alors, c'est qui le boss? Bah, c'était Jean Gabin. Voilà, fin du 67e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié, c'était C'est qui les patrons, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h en direct sur France Inter pour une nouvelle aventure total foutraque et archi loufoque. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi Xavier, au platine, au montage et à la réalisation. Il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel, merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Ronan Mahé, merci beaucoup à lui. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, merci Flora. Merci aussi à Anne Delalande, notre nouvelle stagiaire. Pour les Scud et toutes ses trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chalinier, documentaliste de l'INA, pour toutes ses recherches. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve donc en direct dimanche prochain à 11h. Mais surtout, surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao.
Antoine, tu vas quand même pas me dire que moi j'étais un patron. Jamais, pour personne. Enfin, Aldo, est-ce que je t'ai déjà traité en patron, moi?
Non, patron.